Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, de leurs rencontres, de grosses disputes, de vaisselle envoyée à la figure, mais aussi de leurs plus beaux souvenirs ensemble. Et l'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés, bien sûr, mais aussi que vous puissiez, au travers de ces expériences partagées, vraiment apprendre de nos invités toutes les astuces qui font pour eux le secret du bonheur à deux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Chalalove, que ce soit via le podcast directement, sur notre site internet ou sur Instagram. Alors déjà, un grand merci pour votre soutien et tout cet amour que vous nous aidez à diffuser autour de nous. J'ai pris l'habitude de vous demander de laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. Pourquoi ça? Parce que ça nous aide énormément en réalité à faire connaître Chalalove, à le diffuser. Donc n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles ou pourquoi pas un avis sur l'application iTunes Apple Podcast. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités ou sur notre univers, vous pourrez retrouver toutes ces informations en allant simplement sur le site de notre maison, www.gemio.com. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-France et Marc. Marie-France et Marc, c'est la vraie belle histoire d'amour dans ton rêve. Une histoire pleine de péripéties, d'aventures, de voyages et de moments difficiles aussi. Marc et Marie-France, c'est un peu le yin et le yang. Elle est solaire, extravertie, fonceuse, bavarde, dira-t-elle même. Lui est sage, bienveillant, mesuré. On dit souvent que ce qui se ressemble s'assemble. Dans le cas de Marc et Marie-France, c'est la complémentarité absolue de leur personnalité qui rend leur amour aussi unique. Mais leur passion pour la liberté qui les rassemble. On a évoqué ensemble la fuite de Marie-France au Koweït alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, sa rencontre avec Marc alors marié avec une autre femme, leur histoire d'amour tenue secrète de la famille de Marie-France pendant des années, puis avouée et jamais pardonnée malheureusement par son père. Dans cet épisode donc, Marie-France et Marc nous partagent une belle leçon de vie et nous prouvent que le bonheur se construit avant tout à deux. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemio. Bonjour Marie-France, bonjour Marc et bienvenue sur le podcast. Pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter? Marc, je commence par toi.
Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Marc, j'entre dans ma 80e année.
Eh bien, félicitations.
Et j'ai rencontré Marie-France il y a 42 ans.
Ah, ben on va en parler, ça tombe bien. Marie-France, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Je m'appelle Marie-France, je suis plus jeune que Marc, de 13 ans, et on s'est connus au Koweït. Dans des circonstances un peu particulières.
Eh bien, on va parler de tout ça. Justement, ça tombe très bien parce que ma première question, c'était comment est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que, Marie-France, justement, tu peux m'expliquer, c'était quoi ces circonstances si particulières? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je travaillais à l'époque pour le groupe Chaloupe, qui était un groupe, en fait, des arts de la table. Et à l'époque, il n'y avait pas de femmes au Moyen-Orient. Hein. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et puis, bref, je travaillais toute la journée. Puis un jour, le garçon qui s'occupait de la communication voulait à tout prix m'emmener dans une soirée français, parce que là-bas, je ne fréquentais pas du tout les Français. Et je me suis retrouvée face à Marc, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression que j'étais face à Einstein. Il avait les cheveux tout ébouriffés et tout. Et j'ai trouvé extraordinaire. J'ai essayé de tout faire pour lui parler pendant la soirée, mais lui, il ne me regardait pas du tout. Et en fait, il a finalement réussi. J'ai réussi quand même à me faire un moment invité. Puis il est parti très vite. Et puis il m'a avoué des années après que...
Qu'est-ce que tu lui as avoué? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, cette soirée-là?
J'étais complètement saoul, soir-là.
Donc tu ne t'es même pas rappelé de la soirée, quoi, en réalité.
Si, très bien. Absolument.
Mais quelle impression t'as fait, Marie-France, à ce moment-là?
J'étais quand même tombé un peu sous le charme.
Ah, très bien. Mais alors, comment est-ce que tu lui as mis le grappin dessus, au final, Marie-France?
Elle est venue me voir au bureau.
Ah, très bien.
Pour me vendre des porte-clés.
Donc, elle attaque, quoi, direct.
Non, mais c'est quand même étrange, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Marc, c'était un homme marié. Et que c'était pas du tout... Non, mais d'abord, je le savais pas. Et tu sais, le Koweït, c'est un désert. Je me souviens à un moment... Au bout de 15 jours où on s'est connus, même pas 10 jours, Marc a pris un avion, il est parti en France pour annoncer en fait à sa femme et à sa famille qu'il arrêtait leur relation. Et je me suis toujours dit, dans ce désert, on dirait qu'il y a des pierres, il y a tellement peu de pierres dans le désert. Longtemps après, je me suis toujours dit, mais c'est pas possible. Il y en avait une là, et vraiment elles étaient faites pour se rencontrer. Mais ça a été très compliqué, très difficile.
Oui, j'imagine, parce que donc, je comprends mieux pourquoi Marc, à l'époque, tu n'étais pas forcément intéressé. Donc, vous commencez à vous fréquenter. Donc, ça, vous me dites, c'était à 42 ans, c'est ça ?
Oui. Exactement.
Comment est-ce que la relation a évolué au sens... Est-ce que c'était évident pour vous, assez tôt, que bah, vous étiez amoureux ? Enfin, c'est quand même, en plus, une autre époque. Les relations n'étaient pas forcément les mêmes aussi, de couple. Mais en plus, au Koweït, où vous étiez... Enfin, toi, Marie-France, t'étais loin de ta famille. Est-ce que vous pourriez me raconter ben, comment voilà, les premiers mois, peut-être les premières années de votre relation se sont déroulées ? Et est-ce qu'assez tôt, vous vous êtes dit... Ah, c'est la bonne personne, enfin, ces deux pierres dont tu parlais, Marie-France, est-ce que ça a été évident, en fait, assez rapidement, ou ça s'est fait au fil de l'eau ?
Je pense que ça s'est fait assez rapidement. Pour que je décide, au bout de 15 jours, d'aller dire à ma femme que je mettais fin à notre mariage et à notre couple,
ouais.
C'est qu'il devait y avoir quelque chose à
vraiment
tomber
complètement amoureux. Ça a dû quand même être une sacrée décision pour toi, pas évidente, quoi. Mais moi, je voulais parler de la suite de votre histoire, parce que je sais qu'elle n'a pas été un long fleuve tranquille, et notamment au niveau de ta famille, Marie-France, si je ne me trompe pas. C'était pas évident, justement, de dire que tu étais dans une relation avec Marc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ?
Parce que, en réalité, si tu veux, Marc partant de chez lui, et en plus, Marc avait deux enfants, dont d'ailleurs on s'est occupé très rapidement. C'était pour moi impossible de dire à mes parents que c'était finalement moi qui avais été le déclencheur. Mais j'étais le déclencheur d'une situation qui était bien plus profonde. Oui. Donc c'était... En plus, je n'étais pas sûre de mes sentiments pour Marc. Autant je pense que Marc a très vite compris, je pense en l'espace même de 48 heures, que j'étais celle avec qui il pourrait bâtir. Je me rappellerai toujours, il m'avait dit à propos de sa femme qu'il y avait comme un mur... et qu'ils avaient élevé le mur et qu'ils s'étaient tellement élevés qu'à un moment l'un ne pouvait plus parler à l'autre. Et moi, en fait, je lui parlais moins que de l'amour, de l'idée que j'avais de la vie, etc. Je voyais pas que je rentrais dans une relation amoureuse. Je pense que j'étais plus excitée par l'idée de quelque chose de fort qui arrivait. Et puis après, on a été plongés dans la réalité parce que je suis devenue, si tu veux, aux yeux de la communauté de Koweït qui ne me connaissait pas, mais de la communauté française, je suis devenue l'horrible bonne femme qui piquait des maris, alors qu'en fait, et je me suis, parce que c'est des cocottes minutes,
oui,
ces mini-communautés, surtout à l'époque, c'est les expatriés déjà aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus petit,
tout ça.
Et puis, vis-à-vis de ses parents, longtemps ils ont pensé que j'étais dans une secte, qui s'était fait prendre dans une secte, enfin. Et puis, moi, vis-à-vis de mes parents, c'était impossible de dire que c'était finalement moi qui avais malheureusement un peu quand même déclenché. Donc j'ai menti, j'ai dit que c'était lui, mais j'ai menti pendant des années, c'est-à-dire que j'ai caché pendant des années mon histoire avec Marc, j'osais pas.
Mais quand excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu as dit que tu as menti, c'est pas du tout pour te juger là-dessus, parce qu'au contraire, je comprends complètement, mais quand tu dis que tu as menti, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne disais pas que tu étais dans une relation avec Marc, c'est ça ? Ou tu le cachais ?
Pendant des années, je ne l'ai pas dit, je l'ai caché. Et puis, il se trouve qu'avec Marc, à un moment donné, mon père a vu la situation... Et il m'a mis devant le fait accompli en me disant qu'il fallait que je choisisse entre le père et l'amant. Enfin, ce serait cru au XVIIe siècle. Mmh. Et donc, de cette minute, ça a été terminé avec papa. Mais surtout, avant, je leur avais menti dans le sens que quand ils me demandaient qui était Marc et tout, parce qu'ils le voyaient, parce qu'on faisait des affaires ensemble et tout, je racontais, ils disaient « le pauvre, c'est un cocu ». Enfin, mon père se moquait du cocu. Et il savait... Enfin bon, donc tout était mensonge dans cette histoire. Sauf notre histoire à nous deux.
Ouais.
Et après, beaucoup de gens se sont dit, leur truc va péter. Ça va leur péter dans la gueule, c'est trop compliqué. Et puis pas du tout. Puis après, il y a les enfants, il y a comment on devient une belle-mère, comment on passe du statut de marâtre au statut de belle-mère.
Marâtre, je ne pense pas
Mais c'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquent qu'on croit. Les gens rêvent, ah, c'est génial, je fais une famille recomposée, tout le monde s'aime et tout. C'est beaucoup plus... Si je peux donner des conseils à des plus jeunes, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est sur le temps que ça se joue et à travers comment on se comporte soi-même avec les enfants de l'autre.
Pour revenir quand même sur cette période qui a dû être extrêmement marquante et dure quand même pour vous, donc si je comprends bien, vous travailliez ensemble à ce moment-là et donc vous étiez ensemble aussi.
Non.
Vous travaillez
au Koweït, pas du tout.
Ah, vous ne travaillez pas ensemble, d'accord. C'est après que ça s'est fait, d'accord. Et donc vous mettez ensemble, vous le cachez. À quel moment donné est-ce que vous commencez à vous dire que vous allez travailler ensemble justement ? C'est arrivé beaucoup plus tard ?
En fait, après Koweït, on est parti en Norvège. J'allais construire une plateforme en fait, pour la mer du Nord. Et après la Norvège, je suis rentré à Paris. Marie-France était avec moi en, fait, en Norvège. Et quand je suis rentré à Paris, assez rapidement, on a décidé de faire quelque chose ensemble.
D'accord, je comprends mieux.
En fait, on voulait tout vivre ensemble. Et comme on avait le goût de l'international, moi j'avais fait déjà avant... J'étais quand même partie au Moyen-Orient à 18 ans, et à l'époque, c'était le désert, on avait des caractères comme ça, on était attirés par ce qui était dur, par ce qui était différent, et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là qu'on a pensé, on a repris une petite maison de cognac, parce qu'on s'est dit, le cognac c'est international, ça nous forcera à voyager, et on se dit, et on a réussi à vivre notre vie entière, du matin jusqu'au soir et la nuit, sans jamais s'embêter ensemble.
C'est quand même assez exceptionnel, hein?
Non, faut dire que j'ai beaucoup de chance avec Marc. Parce que...
Oui, mais moi j'en ai aussi beaucoup avec Marie-France.
C'est vrai que ça fait rêver, parce que 42 ans à être matin, midi et soir et nuit, comme tu dis, ensemble.
Mais plus maintenant, et je suis un peu triste.
Comment ça?
Parce que on a arrêté en fait la société. Enfin, moi je continue un petit peu. Et en fait, je me suis mis moi dans des tas d'activités qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus associatives. Et Marc...
Il est plus retraité.
Non, et du coup...
Vous travaillez moins ensemble, quoi.
On travaille moins ensemble. Mais le soir, ça bavarde autant. Et...
ça a toujours été important pour vous, justement, ce dialogue, cette discussion, le fait de pouvoir échanger, d'avoir des projets partagés sur lesquels vous pourriez échanger et refaire le monde?
Oui, je crois que...
Mais je ne peux pas t'expliquer... On ne l'a jamais vu en projet. Je ne sais pas comment... Notre vie, les
natures,
choses se sont enfilées naturellement. C'était notre nature.
Mm-hmm.
On n'est pas du tout des gens qui prévoyons, on n'est pas du tout dans cette... on n'a pas cet état d'esprit.
Si on revient quand même, je suis désolée d'insister dessus, mais sur la présentation aux familles, donc je sais que ça se passe mal avec ton père, Marie-France, est-ce que tu peux me dire, avec vos mots, mais comment est-ce que vous avez vécu cette période? Quelles ont été vos émotions? Enfin, je n'imagine même pas le choix... à faire entre ton futur mari, puisque vous avez fini par vous marier, on va en parler, et ton père. Enfin, c'est terrible en fait, et c'est terrible d'être devant ce fait accompli. Je veux pas faire du misérabilisme pour toi, mais c'est vrai que c'est un moment qui a dû être très dur. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que pour toi ça a été évident de dire ok, c'est bon, je coupe, je pars, je fais autre chose? Est-ce que tu as essayé de le rattraper? Est-ce que tu as essayé de convaincre? Comment tu as fait? Comment tu as géré cette période?
Mon père, il m'a toujours beaucoup culpabilisé. Et en fait, je suis partie de la maison très jeune, j'avais 18 ans, dans l'espoir de montrer à mon père que je pouvais être digne de lui. Mais en même temps, j'avais très peur de papa, puisque je n'osais même pas lui dire, alors que j'avais quand même 24 ans, 25 ans, je n'osais même pas lui dire que j'aimais cet homme. J'avais trop peur de son jugement. Donc pour moi, c'était terrible. Ça ne me serait pas venu à l'idée de couper avec mon père, mais c'est mon père qui a coupé. Qui a dit « je veux plus te voir, t'es comme morte ». Il n'a jamais revu Marc. Il n'est jamais venu à aucun baptême des enfants. Et maman a été pareille. C'est-à-dire que... Mais je ne l'ai pas vécu comme... Je n'ai pas essayé de courir après. En fait, j'ai couru toute ma vie après mes parents. Donc ça s'est toujours fait sans que je m'en rende compte. Je n'étais pas là à me dire « ils sont dégueulasses ». C'est les autres qui disaient « vous ne résisterez pas à ça ». Parce qu'en plus, j'étais plutôt une fille de famille, dans des milieux privilégiés et tout. Et donc, les gens se disaient, mais allez, ils ne vont pas pouvoir vivre à la Clause de Bois, la Bohème, etc. Marc avait tout perdu aux couettes, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on est vraiment rentré, tu sais...
Avec vos baluchons,
limite. Oui, c'est ça. Il a fallu repartir, reconstruire, rebâtir de zéro. Il y avait eu les enfants, en plus de Marc, qui sont arrivés dans notre vie et tout. Parce que Marc, c'est un père exceptionnel. Et après, on a attendu. Moi-même, j'ai attendu longtemps pour faire des enfants avec Marc, parce que je ne voulais pas que les enfants de Marc souffrent de voir... que leur père allait tout de suite aller refaire une deuxième famille et tout. Donc, personnellement, on a tellement été pris dans notre histoire, on s'aimait, il fallait tellement se battre contre tellement d'obstacles qu'on n'avait pas le temps, il n'y avait pas d'émotions négatives.
D'accord.
Mais je me suis toujours sentie quand même un petit peu le canard sauvage un peu de la famille. J'ai toujours senti que je n'étais pas dans les normes. Et d'un côté, ça ne me dérangeait pas, mais quand je me replonge dans mon milieu familial... Chaque fois, je repars en me disant « Ouh là là, quand même, je suis quand même drôlement différente. »
Et toi, Marc, comment tu l'as vécu, cette décision du père de Marie-France? Finalement, ça a dû être très dur aussi pour toi, quand même.
Non, parce que pour moi, en fait, j'aimais Marie-France. C'était pas, ma relation n'était pas avec son père. Un jour, son père m'a appelé, m'a demandé « Est-ce que vous êtes l'amant de ma fille ?» Je n'avais rien à lui cacher, je lui ai dit « Oui ». Et de ce jour-là, en fait, on ne s'est plus revus. J'ai quitté les bureaux parce qu'ils nous abritaient dans des bureaux. Bon, on est parti s'installer, en fait, s'installer ailleurs. Et j'ai toujours laissé, en fait, Marie-France libre de ses relations avec ses parents, que j'ai toujours respecté dans un sens ou dans un autre. Mais jamais je lui ai fait le moindre reproche.
Non, ça se sent. Pour parler un petit peu maintenant des enfants. Donc, c'est vrai, famille recomposée, tu disais, Marie-France, que ce n'était pas évident. Bon, je peux l'imaginer. Est-ce que tu aurais quand même des conseils ou est-ce que vous auriez peut-être des conseils ? J'imagine que ce n'est pas facile, mais typiquement pour les couples à qui ça arrive, parce que c'est extrêmement fréquent quand il y a déjà des enfants, une famille d'une autre union et qui doit se mêler à une nouvelle famille qui arrive. Peut-être des erreurs que vous auriez commises ou des choses que vous pourriez partager à ce sujet pour que ça se passe bien, parce qu'au final, ça se passe merveilleusement bien pour vous.
Enfin, si je peux donner mon opinion, un conseil que c'est Marc qui me l'a donné, c'est de toujours dire la vérité. Moi, j'étais dans une famille où c'était plutôt un peu le mensonge ou le non-dit. Il m'a dit avec les enfants, il ne faut jamais mentir, surtout dans ces moments-là. Et personnellement, je trouve que Marc a été quand même un peu brutal, c'est-à-dire qu'il a quand même assez rapidement voulu un peu m'imposer. Et je pense que les enfants, ils avaient envie de voir leur papa, mais pas leur papa et cette nouvelle compagne. Par contre, Marc, il m'a aussi dit une autre chose. Ça, c'est très difficile à vivre. C'est que même quand c'est injuste, même parce qu'en plus, leur couple, ça a été compliqué parce que la mère a été très, 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 très violente contre Marc, que les enfants, c'était eux qu'il faut protéger. Donc, c'est-à-dire que tu peux t'en prendre plein la gueule, toi, en tant qu'adulte. Et en fait, il ne faut pas moufter parce que c'est le temps qui montrera. Et c'est incroyable à dire, mais c'est vrai. Avec le temps, les enfants enregistrent des choses et arrivent à finalement faire eux-mêmes la part des choses. Et je me rappelle la petite fille de Marc, Zoé, qui est du même âge que mon dernier fils qu'on a eu ensemble. Sa mère s'est séparée de son conjoint. Et un jour, je lui donnais le bain. Elle m'a dit Mary, parce qu'elle m'appelle Mary. Il paraît que quand tu étais petite, maman, elle était horrible avec toi, qu'elle te jetait ses culottes sales à la figure. Est-ce que c'est vrai ? Elle m'a dit qu'il ne faut surtout pas que je fasse ça avec la compagne de papa. Et je me suis dit, c'est marrant. Donc, ces choses qui avaient été... cette petite, elle était, pour elle, c'était presque plus un jeu. Et donc, je me suis dit, c'est merveilleux, parce qu'en fait, Steph, elle a pigé, et non seulement elle a pigé, mais elle transmet à son enfant de ne pas faire des choses qu'elle-même, elle a fait, parce qu'on veut défendre sa maman, parce que... Enfin, bon. Mais c'est très dur à vivre quand tu as 23 ans, tu as deux enfants qui débarquent dans ta vie, et qu'en plus...
Qui avait quel âge, à l'époque, les enfants, à peu près, vous diriez
Ils avaient 7 et 5.
C'est ça. Oui, donc ouais. Ils étaient quand même suffisamment grands pour avoir conscience de ce qui se passe. Quoi.
Ah oui, bien sûr.
C'est difficile. Enfin, les gens ont tendance à vouloir le prendre à la légère, à se dire, allez, je me réinstalle très vite et tout, avec un autre, et puis ça va être génial, ils vont s'entendre, les petits... Ça ne marche pas comme... C'est
faux. Tu dirais qu'il faut prendre le temps.
Oui, il faut prendre le temps, et puis il faut... Il faut... Bon, on est dans une époque un peu différente où les gens se séparent beaucoup plus facilement et tout. Je ne sais pas du tout si c'est une histoire de prendre le temps, mais en tout cas de dire la vérité et pas leur faire croire à des schémas soi-disant extraordinaires vers lesquels ils vont. Parce que dans toutes les histoires, il y a des moments exceptionnels, il y en a des moins exceptionnels.
Et toi, Marc, au-delà de ce conseil de dire la vérité, tu aurais quelque chose à ajouter sur le sujet ?
Elle a été patiente.
Oui. Ben oui, parce que finalement, vous avez donc votre première fille qui est née à peu près combien de temps après le début de votre relation ? Assez longtemps.
Oui, au bout de... Oui, justement, on attend au bout de 13 ans, peut-être.
Au bout de 13 ans ?
Non, attends. Non, elle est de 85. Et
j'avais 33,
on s'est rencontrés
au bout de 10 ans.
77.
Au bout de 10 ans, quand même,
oui,
d'accord.
Voilà, presque 10 ans, un peu moins.
Donc, quand même, mais pour resituer la configuration, à ce moment-là, vous travaillez ensemble.
Oui.
Vous avez donc, il y a les enfants de Marc qui vivent avec vous, et vous avez votre premier enfant. Et donc là, c'est le joyeux bordel, j'imagine.
Oui. Oui, surtout qu'on avait très peu de moyens.
Voilà. Donc, ma question, c'est à ce moment-là, donc il y a énormément d'amour, etc., mais la conciliation entre la vie professionnelle, la vie personnelle qui est assez envahissante, le fait que vous travaillez tous les deux ensemble aussi, c'est, j'imagine, des choses pas faciles. Si vous prenez un petit peu de recul sur tout ce qui s'est passé, parce que vous avez eu encore deux autres enfants derrière, Quels ont été pour vous les grands enseignements, les choses que vous avez fait bien en la matière, dans l'éducation de vos enfants, dans le fait de travailler ensemble, de tout mêler un peu comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast en réalité qui travaillent ensemble et qui ont aussi des enfants en parallèle. Et donc je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir votre recul là-dessus, sur qu'est-ce que vous avez bien fait, peut-être qu'est-ce que vous estimez que vous avez moins bien fait aussi en la matière.
Bon, on a eu déjà de la chance parce que on s'est entouré en fait d'une personne, puisqu'on partait tous les matins au bureau, il fallait bien que quelqu'un en fait s'occupe des enfants. Et on a eu la chance de trouver quelqu'un qui s'en est remarquablement en fait occupé.
Non, mais c'est important d'avoir aussi de se faire aider et d'avoir une personne de confiance, quoi.
Exactement. Et une personne, quand je l'ai vue, elle était assez jeune. Je lui dis, voilà, le matin, on part à 7 heures. On ne sait pas à quelle heure on rentre le soir. Il faut que, entre-temps, que vous vous occupiez en fait des enfants. Après, il faudra les emmener à l'école, des choses comme ça. Et il faut... Voilà une voiture, vous n'avez pas de permis, allez vite passer votre permis de conduire. Et puis, ça s'est passé comme ça, avec quelqu'un qui est devenu un peu une
personne de la famille, ouais.
Oui, mais justement, mais ça c'est basé sur un rapport de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me souviens, j'étais en Chine, parce que parallèlement en fait à notre activité dans le cognac, comme on n'arrivait pas à s'en sortir, j'avais pris une deuxième activité commerciale aussi en Chine, enfin dans le textile. Et je me souviens, Marc m'avait appelé en me disant « c'est trop beau pour être vrai », Charlotte, la fameuse Charlotte. Mais le truc, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a plein de parents aujourd'hui qui n'ont pas confiance dans les gens auxquels ils confient leurs enfants ou qui veulent toujours avoir le nez derrière pour vérifier que tout se passe bien. À partir du moment où on fait ça, c'est fini. On ne peut pas créer avec l'autre personne un rapport qui fait qu'elle ne va même pas regarder l'heure. Ce n'est pas une histoire d'horaire, c'est une histoire de s'impliquer, de se sentir responsable. Je pense que de toute époque, il y a toujours eu des gens qui n'ont jamais eu envie de s'investir et d'autres qui ont eu envie. Oui. Et donc ça, si je peux donner un conseil, être un peu moins à penser que l'autre ne va pas savoir faire et savoir lâcher à partir du moment où on sent que l'autre se donne complètement. On lâche et puis pourquoi ça a marché? Parce que Charlotte, évidemment, a joué un rôle énorme. Moi, personnellement, si je devais refaire... je ferais pas du tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis beaucoup trop... On était des gens qui travaillons en moyenne entre 15 et 16 heures par jour. Hein.
Ouais, c'est énorme.
Donc, et le samedi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail, de tout ça. Donc, il fallait physiquement aller au bureau. Il y avait les téléx, après les fax, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc, on pouvait pas travailler de chez soi. Et moi, le grand, grand, grand regret de ma vie, c'est de pas m'être assez occupée de mes enfants. Et c'est leur grand... regrets et reproches, et ils ont 100 fois raison. Mais parce que Marc était un père tellement extraordinaire, Charlotte, elle joue un rôle tellement modérateur. Moi, je savais que j'avais en moi un côté un peu fou, un peu... Donc, j'étais le côté passion, je leur racontais des histoires, enfin... Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, j'ai pas été assez là au sortir des cours. Moi, je me souviens toujours, un jour, c'était un anniversaire d'un des enfants, et quand la porte a sonné que j'ai ouvert... la dame, elle ne savait pas qui j'étais, elle est allée vers Charlotte, qui était pour elle la maman. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui déconne, c'est-à-dire que ça ne va pas. Et en fait, j'étais arrivée en courant du bureau parce que Charlotte m'appelait en me disant, on va souffler les bougies, dépêchez-vous. Donc ça, objectivement, ce n'est pas une histoire de faire passer sa carrière, parce qu'on n'a jamais réagi en tant que carrière, mais comme on embarquait nos enfants partout avec nous, dès qu'on avait 5 minutes de libre, dès qu'on avait, on les prenait et on partait en voyage avec eux. Ils ont commencé à voyager à l'âge de 12 mois. Enfin, Alix, je l'emmenais en Chine à 18 mois. Tout le monde me disait que j'étais folle. À l'époque, c'était complètement la feuille. C'était juste après Mao Tse-Tung et tout. Enfin, ce n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Mais c'était Marc qui était comme ça, qui était très aventurier, plus que moi. Et en fait, on les a tellement imbriqués dans tout. Je croyais que la maison, c'était un sanctuaire, mais c'est faux. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se dire « ma maison est un sanctuaire ». Il faut montrer à ses enfants qu'on est vraiment là.
Oui, mais justement, en fait, on a en quelque sorte compensé un petit peu. Dès qu'on avait un moment libre,
ça, les vacances,
ils étaient avec nous, loin, dans des choses dépaysantes et tout, qui sont l'essentiel de leur formation, de savoir qu'ailleurs, il y a autre chose, qu'il y a d'autres vies, d'autres civilisations, d'autres trucs.
Vous étiez moins dans le quotidien,
c'est leur richesse.
Mais par contre, vous leur avez apporté une énorme richesse culturelle, intellectuelle, et juste tous ces moments un peu extraordinaires que vous partagez avec eux. Je comprends. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, parler de votre mariage, qui est arrivé fort tard. Et Mary, tu me racontais l'histoire de votre mariage, parce que donc, pendant toutes ces années, vous avez vos enfants, vous travaillez ensemble, vous bourlinguez partout, mais vous n'êtes pas mariés. On l'a pas dit. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas mariés, premièrement? Et ensuite, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui a fait que vous avez fini par vous marier, par vous passer? Comment est-ce que tu as fini par lui mettre la bague au doigt, Mary?
On n'était pas mariés parce que je voulais que Marie-France soit libre. Libre de me quitter, libre de faire ce qu'elle voulait.
Même après avoir 3 enfants avec elle, tu voulais qu'elle soit libre?
Ça s'est fait, en fait, comme ça.
Non, mais Marc, il a un goût de la liberté qui ne se voit pas, parce qu'il fait plutôt, on dirait, un juge. Mais il a un vrai goût de l'indépendance, de la liberté. Ouais. Alors que moi, là-dessus, c'était mon petit côté, j'étais élevée chez les bonnes sœurs, tout ça. Moi, je voulais que ça soit sanctifié. Tellement, je me disais, c'est tellement beau notre amour qu'il faudrait que ce soit sanctifié. Mais sanctifié n'importe où, dans la nature, peu importe, sanctifié. Et en fait, lui, il ne comprenait pas. Je faisais tout un
tas de... Toi, tu n'étais pas pour forcément le mariage? C'était plus important pour toi de garder votre liberté respective que de te marier, Marc?
Mais je te dis, vraiment, je voulais... J'avais pas envie qu'elle parte, hein.
Oui, oui.
Mais je voulais qu'elle soit libre.
D'accord.
Qu'elle se dise pas, je suis coincé par un lien juridique ou...
Qui venait peut-être aussi de son propre mariage.
Oui, bien sûr. Oui. La première expérience.
Voilà. Et je faisais tout, des contorsions dans tous les sens, ça marchait jamais. Et ce qui était terrible pour moi, c'est que dans ma famille, tout le monde croyait que c'était moi qui voulais pas me marier. Qui disait, mais c'est pas bien... Tu te rends compte, ce pauvre Marc, ça a toujours été un mensonge, mon histoire.
Parce que toi, esprit un peu libre, tout le monde pensait que c'était toi qui voulais garder cette indépendance.
Oui, Marie-France, elle veut faire comme les 68 ans, ou j'en sais rien. Ça a toujours été terrible de me dire, il croit que c'est Marc le pauvre cocu, alors que c'est moi, en fait, la salope dans l'histoire. Il croit que c'est Marc qui rêve d'une mariage. En fait, j'étais la plus... Bon, bref. Et un jour, une truc formidable m'arrive. Marine, donc c'est la seconde, elle devait avoir 8 ou 9 ans, et elle me dit, pourquoi Cyril et Steph, donc les aînés, pourquoi leur maman, elle s'appelle, pourquoi leur maman, elle a le même nom de famille que papa, et pourquoi nous, t'as pas le même nom de famille que papa? Oh la vache, là je me suis frotté les mains. Le lendemain, je suis allée le voir, je lui dis, tu sais Marc, c'est terrible, parce que la pauvre Marine, c'est terrible et tout, elle comment? Et là, Marc a rien dit. Mais dans la famille de Marc, il y a une tradition à Noël, on met, tu sais, ses sabots dans la cheminée et on pose ses cadeaux qu'on découvre le matin. Et moi, j'ai trouvé un petit mot, tout plié en 4, où il y avait m'a demandé si je voulais bien être sa fiancée jusqu'au 13 novembre suivant, qui était le 13 octobre, qui était le jour de notre rencontre, de nos 20 ans. Et donc, il me demandait de l'épouser pour nos 20 ans. Donc, j'étais sa fiancée pendant quelques mois.
Du jour de notre rencontre.
Et évidemment, le 13 octobre, c'était un lundi. Je lui ai dit, mais Marco, on ne se marie pas un lundi.
Ah oui, oui.
Les gens, ils vont au boulot. Oui, il m'a dit non, c'est le 13.
Oh, bah,
puis après, ça a été très compliqué parce que moi qui voulais être sanctifiée, aucun curé voulait me sanctifier.
Ah oui.
Donc, on s'est retrouvés dans un truc où j'ai dit 10 jours avant, non, je ne me marie pas et tout. Et finalement, en fait,
avez eu du mal à trouver un lieu qui accepte de vous sanctifier.
Et finalement, en fait, c'était le catéchèse de mes enfants là que j'ai amené au catéchisme. Il m'a dit, je suis allée le voir très timidement. En plus, j'avais Alix qui voulait surtout pas que j'en parle.
Et
je veux pas qu'il sache au lycée et tout, parce que il se trouve que la chapelle était à côté du lycée.
D'accord.
Et elle disait toujours, maman, je t'en supplie, il faut le dire à personne.
J'ai pas envie que mes copines me voient.
Voilà. Et puis finalement, elle voulait pas qu'on sache qu'on n'était pas mariés. Il faut dire que c'était des époques où c'était rare les gens qui étaient pas mariés. Les gens divorçaient, mais ils se remariaient. Mais les gens qui étaient pas mariés, qui avaient des enfants au bout de nos âges, c'était bon. Et finalement, c'est mon meilleur ami qui habitait au-dessus de cette chapelle et qui m'a dit, mais c'est marrant, je le vois tout le temps passer, le curé, je discute avec lui, il a l'air très sympa ce gars-là. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, ouais, je suis la maman, nanana. Est-ce que vous... Je lui ai dit la vérité, qu'on n'était pas mariés. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de prier ce jour-là? J'ai dit, vous avez tous exactement ça que je veux. Et il m'a dit, mais je vais vous faire une bénédiction. Et il nous a fait un truc où il n'y a jamais eu d'anneau, enfin rien.
Oui,
mais tout le monde nous a dit, c'était mieux qu'une messe de mariage. En fait, c'était une messe d'union, d'amour.
Un lundi.
Un lundi, dans la chapelle de... Vous, Alix, nous avait interdit de le faire avant 18h pour pas que ses copines, à travers la grille, puissent voir que. Et après, Marc a voulu, on a fait ça à l'Institut du Monde Arabe, parce qu'on s'était connus à Couette et il voulait que ça se passe.
Voilà. Beaucoup de symboles. Est-ce que vous vous disputez de temps en temps?
Moi, je gueule tout le temps.
Mais Marc, lui, il accuse le coup, c'est ça?
Non, Marc, il est très particulier. C'est un garçon très calme, mais quand vraiment il est furieux, il peut prendre une table comme ça, 4 fois cette taille, la prendre et la jeter pour dire c'est fini. Et moi, je cours, je pleurniche, non, je t'en supplie. Mais on parle beaucoup entre nous. C'est pas qu'on se dispute, c'est que on argumente beaucoup en fait. Mais Marc, tout lui passe dessus. Je sais pas comment expliquer. Il est très philosophe. Il est. Mais on se dispute.
Il prend moins les choses à cœur. Est-ce que vous avez justement un peu soit des méthodes, soit des moyens tout simplement de faire en sorte que les disputes ne s'éternisent pas? Parce que parfois, on voit bien d'ailleurs dans les couples qui durent que très souvent, c'est qu'aussi ils arrivent à se pardonner, ils arrivent à passer à autre chose, ils arrivent à laisser filer, comme tu dis. C'est pas le côté boudeur pendant une semaine de suite, parce que sinon c'est insupportable. Et au contraire, à l'inverse de peut-être ce qui s'est passé dans ta précédente histoire, tu construis pas de mur, tu continues en fait à garder le dialogue ouvert. Est-ce que c'est juste que vous discutez beaucoup? Enfin, comment vous faites quand il y a quelque chose quand même qui vous énerve avec l'autre, vraiment, et que ça monte? Comment vous faites pour arriver à passer à autre chose?
Non, mais en fait, Marie-France, elle a le don d'oublier, en fait.
Donc elle oublie. elle oublie. Et,
voilà, et les choses rentrent dans l'ordre.
Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais c'est que je l'aime tellement que je me dis, mais je suis trop conne de m'énerver comme ça. Mais c'est pareil dans ma vie professionnelle. Au bureau, les gens m'ont toujours dit, mais de temps en temps, Marie-France, on n'entend même plus, on n'entend que son, les gens avaient peur. Et la minute, enfin, je sais pas, 10 minutes après, c'est fini. Je suis incapable de... Je ne peux pas durer. Et puis, en fait, je suis même comme un enfant. Je retourne le voir en disant, mais Marc, je te demande pardon, pourquoi j'ai dit ça? Et lui, finalement, je te dis, comme ça coule sur lui, il s'est habitué, il est... Mais je pense que vu l'extérieur, mais je ne sais pas comment expliquer... Si, je sais comment dire. Très souvent, j'entends les gens, quand ils parlent en fait, de leur couple et tout, je les entends dire ce qui est le plus... Il faut arriver à faire des compromis. Des concessions, pas des compromis. Ils disent concessions.
Ouais.
Et moi, je me rends compte que sans s'en rendre compte, on n'a jamais fait de concessions. Mais ça s'est fait naturellement. C'est pour ça que je te dis, ces deux pierres, il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un de là-haut qui s'est dit, tiens, bim, je balance. C'est de la coque, je les recolle ensemble. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire des concessions.
De faire un effort, de faire
jamais.
Une concession.
Et je ne sais pas pour Marc.
Non, mais c'est pareil. Hein.
Bah, c'est vrai que ce qui est terrible dans le côté concession, c'est le côté on garde les points un peu, on compte les points.
Ah bon?
Et très souvent, le problème, c'est que c'est un peu ce que la psychologie nous apprend. Il ne faut surtout pas compter les points, parce qu'ensuite, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu as plus de points que l'autre. Et donc, c'est à ce moment-là que ça pète. Donc, le naturel avant tout, Marie-France, tu as bien raison. Si on parle un petit peu pour rigoler des défauts de l'autre, Marc, quel est le pire défaut de Marie-France, celui qui te fait hurler, les bouchons qu'elle ne referme pas le soir ou je sais pas, quelque chose qui te fait un petit peu rigoler, que tu trouves mignon mais qui quand même t'irrite un petit peu?
C'est amusant parce
au bout de 42 ans quand même.
Il y en a certainement, mais là à brûle pour point je vois absolument pas.
Bon, bah, tu es parfaite, Marie-France, parfait.
Non, tu pars.
Bon, bah, Marie-France, tu vas être obligée d'en trouver un pour Marc.
Parce que sinon... je le connais, hein. Il le connaît par cœur.
Alors, vas-y.
L'art de remettre au lendemain ce qu'il pourrait faire tout de suite.
Ah, la procrastination.
Non, c'est même pas la procrastination chez Marc. C'est carrément l'enlisement.
Ah, on enlise. C'est pas juste au lendemain, c'est
non.
Aussi au surlendemain.
Il a un truc comme ça, et puis tout d'un coup, il réalise que... Et là, parfois, c'est trop tard, les dates sont passées. Et là, il va faire charrette toute la nuit pour régler le problème. Il a toujours été comme ça, surtout.
D'accord, très bien. À l'inverse, qu'est-ce que tu admires le plus chez Marc? Qu'est-ce qui a fait, au-delà de cette histoire de Pierre qui s'est rencontrée, qu'est-ce qui a fait que tu es tombée amoureuse de lui aussi rapidement?
En fait, je ne suis pas tombée amoureuse de lui. Mais non, mais c'est terrible. Mais c'est vrai.
Avec le temps.
J'ai été séduite par ce qui se passait.
Elle s'est vite rendue compte que je n'étais pas Einstein.
Non, mais ça c'est sûr. Mais en fait, je suis rentrée dans un truc par la pression Et c'est peut-être quand on était en Norvège, où là, c'est la seule période de ma vie où je n'ai pas travaillé, où j'ai réalisé, parce que c'était un choix, c'était tout quitter pour partir. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Et je l'ai fait. Et là, après, tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais été nulle de ne pas franchir le pas. Mais c'est pas, je pense, lui a pigé très vite que j'étais une femme, et il avait sûrement raison, avec qui il allait pouvoir vivre vraiment l'amour comme il croyait au sentiment d'amour. Moi, j'étais pas là-dedans, mais j'avais 13 ans de moins. Hein. Ouais. Et si je devais dire ce que j'admire le plus en Marc, c'est le fait que je l'admire. Je sais pas comment expliquer. J'ai toujours admiré Marc. Je l'admire toujours. Quand je sens que j'ai une faiblesse dans l'admiration, je me dis, oh putain, si je l'admire plus, c'est pas possible. C'est qu'en fait, je vais le voir comme il doit être quand même. Et j'aime pas cette idée-là. J'aime l'idée. Je pense que si on n'admire pas l'homme avec qui qu'on aime, il y a un truc qui s'effrite à un moment donné. En tout cas, pour moi, et puis c'est sa bonté. Je pense que je n'ai jamais rencontré un homme aussi bon. Et puis sa finesse, son art de jamais interférer, mais de toujours te remettre sur la voie. Et puis c'est un homme qui m'a guéri de mes manques, de mes démons, de mes difficultés familiales où j'étais pas dans le même moule que les autres et tout. Il m'a toujours accompagnée, il m'a toujours pacifiée, il m'a toujours laissé partir. Mener des aventures professionnelles à la con, où on a paumé un fric fou, il le savait, il se disait, bon, allez, elle fonctionne comme ça, et il ne m'arrêtait pas. Et je lui en suis très reconnaissante.
C'est un beau compliment, Marc. Est-ce que tu peux me dire ce qu'à l'inverse, toi, tu admires chez Marie-France ?
Oh bah, tout.
Bah dis donc, vous êtes bien trouvé.
Je ne sais pas si c'est... Oui,
si, elle a... Un sens de l'humanité qui est tellement exceptionnel que...
Bon, et un sens de la prise de parole aussi, on voit ça. Une autre question que je trouve toujours intéressante, ça fait 42 ans que vous êtes ensemble quand même. Comment vous avez évolué ? Qu'est-ce que l'autre a changé en vous ? Tu disais par exemple que Marc, t'avais laissé beaucoup de liberté, mais en même temps, il t'avait fait prendre conscience un certain nombre de choses vis-à-vis de ta famille, de ta relation à ta famille. Pas uniquement là-dessus, mais au niveau de la personnalité, au niveau de votre comportement, qu'est-ce que l'autre a changé en vous au bout de 42 ans ? J'imagine que c'est difficile à dire parce que ça fait tellement longtemps. Mais voilà, qu'est-ce que l'autre a considérablement changé en vous ?
Si je devais parler de Marc, malheureusement, ce qui a changé en lui, c'est un défaut. C'est sa maman qui me l'a dit un jour. Elle m'a dit, avec vous, mon fils est devenu un gueulard. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a vu que Marc était capable de s'énerver, ce qu'il ne faisait jamais. Donc j'ai fait de lui un gueulard, c'est
oui,
peut-être
bon,
pas
c'est
honorable.
Qui...
Moi, je pense que si je dois voir ce que Marc m'a changé, il m'a pas changé, mais il m'a calmé. Il m'a calmé, il m'a apaisé. Et il m'a montré ce que c'était qu'une famille dans le sens où moi, je l'attendais. Non pas la famille qu'on a créée nous, mais la famille au sens large. Sa famille, les liens, il m'a apaisé de ce côté-là. Je me suis dit, donc ça existe. Ça existe. Je pourrais dire ça, de ce qui m'a...
Ce qui t'a apporté. Ouais.
Qu'est-ce que... Enfin, je ne sais pas, toi, ce qui a changé en toi.
Justement, je suis devenu, comme tu dis, un gueulard. Mais c'est simplement, en fait, aux réactions, quand Marie-France, en fait, s'énerve, j'ai tendance... à monter le ton comme elle le monte, hein, à répondre sur le même ton qu'elle utilise. Donc,
oui, mais je n'ai pas changé dans le bon sens.
Bah, si, il oui, a pris mais... peut-être plus de... voilà, peut-être plus confiance.
Oui, mais justement, en fait, c'est pour moi, c'est pas un mauvais changement, parce que de toute façon, c'est éphémère. Hein. Ça ne peut pas être autre chose qu'éphémère.
Tout à fait.
Elle m'a montré d'autres valeurs aussi, d'autres choses auxquelles j'étais peut-être moins sensible et auxquelles je le suis plus maintenant.
Très bien. Dernière question. Si vous reveniez 10 ans, 20 ans, même 30 ans en arrière et que vous donniez un conseil, que vous pourriez partager vraiment un enseignement que vous avez appris, enfin une réflexion que vous vous êtes faite, un regret que vous avez à la petite Marie-France ou au petit Marc, qu'est-ce que vous lui partageriez ?
Moi, c'est présomptueux, mais j'ai rien. Je pense pas. Je changerai rien.
Maintenant, au contraire, ne change rien, continue comme ça. Tu es sur la bonne voie.
C'est non, c'est-à-dire aujourd'hui, je vois le résultat avec nos enfants, des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a encore des petites frictions, des choses comme ça. Mais justement, grâce à Marie-France, l'amour des beaux enfants pour Marie-France, il est sincère, il est bien. Et les beaux enfants et les enfants s'entendent.
Hyper bien. Ça, c'est merveilleux. Hein. Et toi, Marie-France, t'aurais...
Si je devais donner un conseil à la petite Marie-France...
Oui, un conseil ou juste une réalisation, un enseignement.
D'être plus près de mes enfants. Oui, ça, j'en suis sûre. Pour eux et pour moi, pour les deux.
Mais quelque chose que tu fais peut-être plus maintenant.
Oui. Alors justement, ils s'inquiètent beaucoup. Hein, parce qu'ils se disent, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est pas pour mieux nous manipuler?
Quoi?
Bon, bah, ils vont écouter. Je crois qu'ils ont...
Ils vont écouter, je pense, le podcast et savoir que c'est pas le cas.
Petit à petit, je pense qu'ils ont... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que ma belle-fille Stéphanie m'a dit elle m'appelait pour mon anniversaire, on a parlé longuement. Et elle m'a dit, Marie-France, il y a des choses en toi qui se sont calmées. Tu n'es plus comme... Avant, on avait l'impression que tu croyais toujours qu'on t'attaquait. Et en fait, on ne t'attaque plus, on ne sent plus ça de toi. Mais en réalité, c'est parce qu'avant, on avait une telle charge de pression sur le dos. Et
professionnel.
Professionnel. Avec Marc, qui est quand même un doux rêveur. Hein, je n'ai pas épousé l'homme d'affaires rêvé, et avec des besoins financiers et tout, parce qu'on voulait que les enfants aient les bonnes écoles et compagnie. Donc, ce n'est pas facile de beaucoup gagner d'argent tout en préservant toute une vie et tout ça. Et comme on était en plus des mauvais hommes d'affaires, on n'était pas là-dedans, on était plus dans les gens bon aventuriers mais mauvais hommes d'affaires. On ne sentait pas là où il y avait le fric, ou quand on le sentait, on n'y allait pas. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on était des très gros travailleurs avec toujours des épées de Damoclès. Ouais. Et du coup, automatiquement, je pense que j'avais une tension et toute cette tension s'est défaite quand j'ai commencé à aller dans des trucs d'humanitaire où je vais vers des gens qui sont dans des problèmes tellement plus puissants que ceux que j'avais que du coup, bah, en fait, c'est eux qui m'ont aidé à relativiser et j'ai plus cette tension en fait, que j'avais avant. Je suis plus cool, puis je dois vieillir un peu aussi.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. J'espère que vos enfants vont écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.
Merci Pauline. Pauline.
Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver le contact de nos invités sur le site de Gémio, www.gemio.com, rubrique podcast, ou découvrir même l'envers du décor du podcast en vidéo sur Instagram via notre compte qui est tout simplement @gemio. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, peut-être aussi nous proposer votre histoire d'amour, alors contactez-nous en message direct via Instagram, toujours au pseudonyme Gémio. On attend vos nombreuses candidatures. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux, une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos amoureux, vos proches. Nos invités méritent vraiment qu'on diffuse leurs témoignages autour de nous. Surtout, un grand, grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.